Le monde au féminin. Féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
Le 24 juillet 2020, la Sierra Leone a mis en place un tribunal spécial pour les cas de viol. Ce tribunal vise à renforcer la confiance des victimes en leur assurant une protection et une procédure accélérée. Il permet aux victimes de témoigner à huis clos. La violence sexuelle est depuis longtemps un problème en Sierra Leone en raison de 11 années de guerre civile et occupe le devant de la scène depuis 2 ans avec une augmentation des incidents impliquant des mineurs. En février 2019, le président Julius Mada Bio a déclaré l'état d'urgence de santé publique sur les violences sexuelles, conduisant à la modification des lois sur ces violences. En Colombie, une réforme constitutionnelle du 22 juillet 2020 prévoit la prison à perpétuité pour les coupables de viol et de meurtre d'enfants de moins de 18 ans. Près de 2 mineurs sont victimes de meurtre chaque jour en Colombie. Selon les services de médecine légale, plus de 22 000 enfants de moins de 18 ans ont été victimes de crimes sexuels et 708 ont succombé à des violences en 2019. Plus de 900 femmes, dont 70% de mineurs, ont disparu au Pérou pendant les 3 mois et demi de confinement dû au coronavirus. Avant la pandémie, l'on dénombrait 5 disparitions par jour et ce chiffre est monté à 8. Du 16 mars au 30 juin, on a signalé 915 femmes et filles disparues, selon Eliana Revolard, responsable des droits de la femme, exigeant la mise en place d'un registre national des personnes disparues qui est inexistant. En 2019, 166 fémicides ont eu lieu au Pérou. Suspension levée pour un boxeur britannique qui montrait comment frapper sa femme dans une vidéo. Billy Joe Saunders s'en est sorti avec une amende de 15 000 livres de la part de la Fédération britannique de boxe. Le champion des poids super moyens avait diffusé sur les réseaux sociaux un enregistrement où il montrait comment la frapper au menton et la mettre KO. En 2018, il avait été condamné à une amende et reçu un avertissement après la diffusion d'une vidéo dans laquelle il proposait de la drogue à une femme depuis sa voiture en échange d'un acte sexuel.
Parole de femme.
Selon un rapport de l'ONG Justice et Dignité pour les femmes du Sahel, la violence domestique a progressé dans la région du Sahel depuis le début de la pandémie de Covid-19. L'enquête révèle une augmentation de 30% au Tchad et de près de 15% au Sénégal. Des chiffres à interpréter avec prudence car à peine 5% des femmes interrogées ont répondu à l'enquête, notamment au Niger, où elles ne s'expriment pas facilement à cause de la pression sociale. J'ai joint la fondatrice de cette ONG, Aïda Amahadi Walaté.
Il y a des pays où les gens ont moins de tabous pour en parler et il y en a où on a eu du mal à avoir les échantillons qu'on a eu. Mais je pense qu'au Tchad et un peu partout au Sahel, les VBG sont très élevés, même avant cette période de pandémie, à cause de la crise multidimensionnelle politique que le Sahel vit. Mais avec la pandémie où les gens sont confinés, le Tchad a une augmentation de 30%. Et peut-être c'est dû peut-être aux volontaires qui sont sur place, qui ont été un peu plus actifs ou bien qui ont pu avoir un peu plus de participation. Comparons, on a eu plus de participation au Mali, au Sénégal que dans les autres ici pays, hein, parce que le taux de scolarisation et le tabou est moindre au Sénégal que dans les autres pays de la sous-région.
Quel est le constat général sur votre enquête?
Le total de violences conjugales, qu'elles soient physiques ou verbales, passe de 40% avant la COVID à 52,18% durant la crise liée à la pandémie, soit un taux de croissance de 12%. Donc, le Tchad connaît la plus forte augmentation de violences conjugales de 30%. Le Sénégal passe de 81% de violences conjugales à 96%. Le Mali est le deuxième pays avec un taux élevé de 43% avant COVID, contre 54% durant le COVID, soit une augmentation de la violence de 11%.
Vous qui êtes malienne, est-ce qu'il y a un numéro vert chez vous dans votre pays pour que les victimes puissent dénoncer ce qu'elles subissent?
Oui, on a au Mali quand même, on a certains organismes avec l'appui des organismes internationaux. On a aussi WildAF, ils ont One Stop Shot, mais il y a un problème de moyens, il y a les lois, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a le patriarcat, il y a beaucoup de choses qui sont là, donc on a beaucoup plus de travail, on a beaucoup plus d'un chemin à faire.
Alors, quelles sont vos recommandations, justement, après ce rapport?
Il est évident que toute situation de crise humanitaire affecte disproportionnellement les femmes et les violences basées sur le genre. Mais on recommande dans cette lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, notamment du Sahel, d'aider surtout à leur autonomisation. Et les dispositifs de prise en charge des cas des EVG sont au démarrant faibles et ces existants sont très, très peu opérationnels, contrairement à d'autres pays hors du champ de l'étude.
Alors, ce que vous craignez, en somme, c'est que tous les acquis jusqu'ici, hein, on le retrouve dans plusieurs pays, sont des inquiétudes générales au niveau des ONG, des droits humains, que tous les progrès acquis jusqu'ici se retrouvent en recul à cause de cette pandémie, n'est-ce pas?
Oui, on risque de retourner des décennies en arrière avec cette crise.
Et pour les filles en particulier, notamment la scolarisation des filles, est-ce que vous savez, par exemple, si le gouvernement malien a entrepris quelque chose? Parce qu'on sait qu'en ce moment, beaucoup d'écoles sont fermées, n'ont pas repris, etc. Comment ça se passe pour leurs droits là-bas, leurs droits à l'éducation?
Au Mali, déjà, même sans la crise, les écoles sont fermées depuis un certain nombre de mois. Les années scolaires sont perturbées, même hormis la crise pandémique qu'on est en train de vivre. Donc, ça va accentuer la disproportionnalité, la scolarisation de tous les enfants d'abord, mais particulièrement les filles. Donc, il faut vraiment un accent, il faut une conscientisation, il faut une politique nationale et internationale pour pouvoir relever ces défis.
Madame Walaté, le problème d'accès dont on a parlé tout à l'heure, des petits villages, des communautés qui n'ont pas accès à Internet. Bon, vous travaillez avec des personnes sur le terrain, mais comment est-ce que l'on pourrait accéder à toutes ces communautés d'une manière générale pour vraiment savoir ce qui se passe dans certaines communautés en ce qui concerne la violence contre les femmes et les filles?
Dans les six régions, et on est en train de voir quelle est l'approche qu'on va avoir. Donc, il faut qu'on sache ce qui est sur place, ce qui est en train de marcher, travailler localement avec les ONG sur place. Donc, encore travailler localement dans les coins reculés. Mais il y a certaines zones qui sont très, très difficiles à accéder puisque à cause de l'insécurité, à cause de beaucoup d'autres choses. Donc, même ces endroits doivent être approchés parce que ce sont les plus exposés.
Quel type de soutien vous avez du gouvernement? Et sinon, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme soutien de la part d'un gouvernement?
Il faut que nos gouvernements réellement, il y a les lois, elles ne sont pas appliquées. Il y a des lois qui sont là, il faut que ça soit appliqué. La police, les tribunaux, il faut qu'on sache comment parler aux victimes quand elles sont là. Il faut qu'on sache les prendre au sérieux, il faut qu'on les protège. Il y a tellement de choses, il y a des textes, mais ces textes doivent être renforcés. Ces textes doivent être appliqués. Il doit y avoir des suivis. Il doit y avoir aussi plus de maisons pour accueillir, plus de structures pour les accompagnements, plus d'autonomisation de la femme. il y a 66% des femmes dans le monde du travail. Elles touchent 10% de revenus et elles ont moins de 2% des richesses. Donc, il faut réellement aller de l'avant. La femme doit être au milieu de tout ce qui se passe. La femme, elle a la capacité de développer. Vous regardez les pays qui ont su gérer la pandémie. Tous ces pays sont dirigés par les femmes. Donc, la femme, elle doit être au milieu de toute décision, de toute structure administrative. Sans les femmes, on ne peut absolument pas évoluer. Ça nous fait des années, des années, des années, on parle de ça, mais il n'y a pas de résultat palpant quand on regarde les chiffres des études.
Aïda Amadi Walaté, fondatrice de l'ONG Justice et Dignité pour les femmes du Sahel, était jointe à New York. Trente-neuf femmes et enfants enlevés par des islamistes armés en 2017 à Ngalewa, dans le sud-est du Niger, sont toujours en captivité. Des militants des droits humains organisent des rencontres à Niamey pour interpeller le gouvernement afin d'obtenir leur libération. Un reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Depuis trois ans que ces 39 femmes et enfants ont été enlevés, toutes les initiatives citoyennes de mobilisation en faveur de leur libération n'ont pas porté de fruits.
On n'a pas fait assez de bruit. Nous avons commencé, nous nous sommes tus. Il fallait continuer et l'État se devait de prendre la relève. La diplomatie nigérienne se devait de se déployer pour que, tout comme Chibok, que les femmes de Ngalewa ne soient pas oubliées. Et je vais appeler, pas seulement les associations féminines, toute la société civile à se remobiliser, à faire chorus pour que l'État reprenne. Si l'État du Niger a pu intervenir en son temps pour faire libérer des otages, je pense que l'État peut réussir à faire libérer les femmes et les enfants de Ngalewa.
La société civile, les citoyens ne peuvent pas jouer un rôle direct, ne peuvent pas œuvrer pour la libération de ces filles et ne peuvent que mettre la pression pour que l'État agisse. Parce que si aujourd'hui il y a des initiatives de la communauté ou des groupes, quand vous allez les entreprendre, soyez sûr que vous allez être arrêté pour intelligence avec l'ennemi. C'est du ressort de l'État, c'est à lui de le faire. Les autres entités ne peuvent que mettre la pression, faire un plaidoyer pour que l'État prenne ses responsables.
Les pouvoirs publics ont donc été beaucoup interpellés au cours de cette rencontre. Leur inaction et même leur attentisme ont permis aux ravisseurs, selon des participants, de poursuivre ces actions d'enlèvement.
Aujourd'hui, ce phénomène s'est généralisé. Et le cas d'Ngalewa a dû inciter les gens de Boko Haram à défier l'État et la communauté, à continuer des enlèvements nocturnes. Je ne vous apprends rien, hier nuit justement, à 18 km de Diffa, ils sont rentrés dans une ville, ils ont tué 5 personnes et blessé 2 autres. Avant-hier, à 4 km de Diffa, ils sont venus enlever 5 autres personnes. Donc c'est un phénomène quotidien, cette fois-ci, ce n'est pas des femmes. Mais c'est aussi des hommes.
Les organisateurs sont sortis satisfaits de cette activité et n'espèrent pas la rééditer.
Nous souhaitons qu'au sortir de cette activité, nous puissions trouver la libération de nos innocents femmes et enfants enlevés de Ngalewa. Alors la campagne va continuer sur les réseaux sociaux. On va inonder les réseaux sociaux avec des hashtags « Je suis Ngalewa ». Et voilà, merci encore une fois.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Une triathlète sud-coréenne s'est suicidée après avoir enduré des années d'agression de ses entraîneurs et avoir vu ses plaintes auprès des autorités sportives être ignorées. Choi Suk-yeon, 22 ans, médaillé de bronze junior lors des championnats de triathlon à Taipei en 2015, est décédée en juin dans le dortoir de son équipe à Busan. Elle avait réalisé des enregistrements des agressions endurées et s'était plainte auprès du comité olympique coréen dans l'espoir d'obtenir l'ouverture d'une enquête.
Si jeunesse pouvait.
Au Nigeria, le Sénat a adopté le 7 juillet 2020 un projet de loi sur le harcèlement sexuel, visant particulièrement l'enseignement supérieur. En 2019, une enquête très médiatisée avait révélé que des professeurs utilisaient leurs fonctions pour obtenir des faveurs des étudiantes au Nigeria et au Ghana. Un reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
En envoyant un message clair aux auteurs présumés, un professeur d'université reconnu coupable d'avoir eu une relation sexuelle avec une étudiante pourrait être condamné à une peine pouvant aller jusqu'à 14 ans de prison. Selon ce projet de loi, il est désormais considéré comme illégal pour les enseignants de faire des avances sexuelles aux étudiantes. Rose Princesse Samuel vient de terminer son cycle d'études supérieures à l'université de Maiduguri dans le nord-est du Nigeria.
Le problème de harcèlement sexuel est très sérieux. Ce n'est pas un problème qu'il faut négliger. Il y a certains professeurs dans les universités qui harcèlent leurs étudiantes, soit de façon directe ou indirecte. Ils leur font des avances sexuelles. Certains menacent même les étudiantes de les faire échouer lorsqu'elles refusent.
Zainab Hassan Aminou, de la même université, se souvient de l'expérience de deux de ses camarades de promotion.
Je n'ai jamais été harcelée, mais je connais beaucoup de femmes qui en sont victimes. Deux de mes amies ont été victimes d'harcèlement sexuel. La première n'avait pas le choix que d'abandonner les études. On lui a dit qu'ils n'ont pas retrouvé ses dossiers d'admission, donc automatiquement qu'elle n'était pas une étudiante inscrite à l'université. Auparavant, son professeur avait fait du chantage.
Cependant, adopter un projet de loi est une chose, mais la faire appliquer est autre chose. C'est le souci majeur de Fefa Mwadichi, militante des droits humains au Nigeria.
Il est toujours important d'avoir de tels projets de loi votés par les représentants du peuple. Mais le grand défi est premièrement de le faire signer par le président de la République. Ensuite, il faut aussi une volonté politique pour son application. Sinon, vous allez finir par retomber sur les gens qui sont intouchables.
Le vice-président du Sénat, partisan de ce projet de loi, se veut rassurant quant à son application. Écoutons le sénateur Owi Omoagege.
Il n'y a aucune raison de douter de son implication. Selon les termes et les provisions du projet de loi, il n'y aura pas de discrétion pour le jugement. Tout ce qui est demandé est de prouver que le crime a été réellement commis.
Le projet de loi a été présenté à l'origine en 2016, mais n'avait pas été adopté par les deux chambres du Parlement fédéral. Il a été réintroduit à la suite d'un documentaire qui a provoqué l'indignation face au harcèlement sexuel des étudiantes au Nigeria et au Ghana. Par la suite, quatre professeurs d'université pris en flagrant délit ont été suspendus et ont toujours nié les accusations. À la suite des viols sur des filles mineures, des manifestations à travers tout le pays ont réclamé justice pour les victimes de violences sexuelles basées sur le genre. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Le monde au féminin de VOA Afrique. Une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
Sept femmes ont postulé en France à diverses fonctions qui leur sont interdites au sein de l'Église catholique, qualifiant de scandale l'absence de responsabilité pour les femmes. Ces initiatives s'inscrivent dans le sillage d'Anne Soupa, candidate à l'archevêché de Lyon le 25 mai 2020. Elles ont déposé leur dossier à la Nonciature apostolique à Paris le jour de la fête de Marie-Madeleine, apôtre des apôtres et figure remarquable mais qui a été oubliée par l'histoire de l'Église, selon Anne Soupa.
This is a women's world, a women's world. ce soit les jeunes ou les femmes, croyez en vos rêves, rien n'est impossible, ça va se réaliser. Et inspirons-nous, créons notre histoire, l'Afrique que nous voulons voir demain.
La compagnie aérienne néerlandaise KLM a fait preuve de discrimination à l'encontre d'une passagère en l'obligeant à changer de place quand un juif orthodoxe a refusé d'être assis à côté d'une femme, a estimé le Conseil néerlandais des droits humains. L'instance a été saisie par le député Ronald Van Raak après un voyage en compagnie de son épouse de New York à Amsterdam en mai 2019. Dans un jugement rendu le 23 juillet 2020, le Conseil a souligné que le personnel de bord a demandé au couple de coopérer sans que l'homme en question ait été tenu responsable de son comportement. La compagnie a donc fait preuve de discrimination sexuelle à l'encontre du couple, a estimé l'instance. En Afrique du Sud, le confinement a été prolongé plusieurs fois depuis mars pour tenter d'enrayer la propagation de l'épidémie de COVID-19. Les associations et les autorités ont fait état d'une hausse des violences domestiques pendant ces périodes. Un reportage de Patricia Huon, réalisé en avril 2020.
Les violences domestiques, les brutalités envers les femmes, c'est un problème immense en Afrique du Sud qui entraîne la mort de plusieurs centaines de personnes chaque année. Comme ailleurs dans le monde, avec la mise en place d'un confinement, de nombreuses victimes sont désormais enfermées avec leurs bourreaux. Jeannette Serra travaille pour l'organisation POA, qui lutte contre les discriminations et les violences envers les femmes.
Certaines femmes qui vivent dans un foyer abusif, lorsqu'elles sentent que cela va se produire, elles peuvent partir chez une amie ou des proches ou aller au centre commercial. Mais parce que les mouvements sont maintenant limités, les violences ont plus de chances de se concrétiser. Et pour les abuseurs, le fait de rester à la maison crée du stress qu'ils risquent d'évacuer sur leurs femmes ou leurs enfants.
Dès la première semaine de confinement, la police a enregistré 2300 plaintes pour violence de genre, un chiffre presque deux fois plus élevé que la moyenne depuis le début de l'année. Dans une interview à la chaîne de télévision nationale SABC, la ministre des Femmes et de la Jeunesse, Maite Nkoana Mashabane, a dit être consciente du problème.
Nous avons vu une augmentation et nous ne voulons pas que cela se produise. Oui, nous combattons le COVID-19, mais cela ne nous fera pas faire marche arrière en matière de lutte contre les violences envers les femmes.
Le gouvernement a mis en place une permanence téléphonique et désigné des lieux d'accueil. Bernadine Bachar travaille pour une association qui gère plusieurs refuges près de la ville du Cap.
Lorsque la prolongation du confinement a été annoncée, nous avons commencé à avoir une augmentation du nombre de femmes qui contactaient les services d'aide et les refuges. Je pense que beaucoup s'étaient dit qu'elles allaient y arriver, qu'elles tiendraient trois semaines, puis que les choses retourneraient à la normale lorsqu'ils retourneraient au travail. Mais deux semaines de plus, beaucoup se disent que ce n'est pas possible et elles demandent de l'aide.
Mais pour Kerin Reis du Centre Mosaïque de soutien aux femmes victimes d'abus, il est probable que beaucoup d'entre elles n'osent pas appeler à l'aide.
Le problème que nous avons dans cette situation particulière, c'est qu'il peut être difficile pour les femmes d'avoir accès aux services qui ont été mis en place. Une femme qui vit dans une maison d'une seule pièce avec son abuseur, ce sera très difficile pour elle de prendre le téléphone et d'appeler pour dire « j'ai besoin d'aide ».
Les associations de défense des droits des femmes craignent que l'ampleur du drame ne soit connue qu'après le confinement. À Johannesburg, Patricia Huon pour VOA Afrique.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.